Vous écoutez RFI, il est 22h ici à Paris, 21h en temps universel.
Mathilde Cariou.
120 morts en l'espace de 48 heures. L'armée israélienne pilonne sans répit le nord de la bande de Gaza. Les derniers hôpitaux sont visés et détruits. Faut-il rester ou quitter la région de Koursk dans la zone russe occupée par l'Ukraine? Les civils redoutent l'intensification du conflit après l'annonce par Vladimir Poutine de la production intensive de missiles balistiques. Dans ce contexte, l'Ukraine signe un accord d'armement avec la Lituanie, l'un de ses plus proches soutiens dans la zone européenne. Et puis en France, c'est une vague violette qui a déferlé dans toutes les villes du pays pour protester contre les violences faites aux femmes. Des tirs, des raids, des bombardements, c'est un enchaînement d'explosions incessantes qui retentit dans le nord de Gaza. Le dernier bilan fait état de 120 morts en l'espace de 48 heures. On fait le point avec Oriane Verdier.
Un hôpital aurait notamment été touché dans le nord de l'enclave, blessant du personnel médical et des équipements ce samedi. Parmi les morts figurent 7 membres d'une même famille dont la maison a été touchée pendant la nuit dans la ville de Gaza, ont rapporté des sources médicales à l'agence France Presse. D'autres personnes ont été tuées dans le centre et le sud de l'enclave. Des témoins sur place décrivent une augmentation des bombardements dans le centre de Gaza, en effet, particulièrement sur le camp de réfugiés de Nusayrat, où une mosquée aurait été touchée. Le Hamas a averti hier que les hôpitaux toujours en état de fonctionner seraient contraints de cesser leur activité faute d'essence pour alimenter les groupes électrogènes qui fournissent l'électricité. L'essence, comme l'aide humanitaire, n'entre qu'au compte-gouttes dans l'enclave coupée du monde par l'armée israélienne. Cet isolement rend également très compliqué l'évaluation concrète de la situation sur place pour les journalistes et observateurs internationaux. L'offensive israélienne a fait plus de 44 000 morts, en majorité des civils à Gaza depuis le 7 octobre 2023, selon le ministère de la Santé du Hamas. Mais certains experts estiment que le nombre de morts pourrait en réalité s'élever à plus de 100 000 personnes.
Des victimes palestiniennes auxquelles il faut désormais ajouter les morts au Liban, au moins 38 rien que cet après-midi dans la région de Khiam. L'armée israélienne tente d'encercler cette ville du sud-est du territoire et les frappes continuent du côté de Beyrouth, dans le centre et dans la banlieue sud, toujours sans préavis d'évacuation, indique le ministère libanais de la Santé. Enfin, le Hamas annonce la mort d'une otage retenue dans la bande de Gaza, tuée a priori dans une opération israélienne, toujours dans le nord du territoire. Il ne serait plus que 97 prisonniers sur les 250 enlevés le soir du 7 octobre 2023. Ça y est, les négociations reprennent à Bakou. La séance plénière de la COP29 avait été interrompue il y a 2 heures. Cette réunion devrait être la dernière. La version du texte étudié porte la contribution des pays riches de 100 à 300 milliards de dollars par an d'ici 2035 pour aider les pays du Sud à faire face au réchauffement climatique. C'est insuffisant, répètent les premiers concernés, qui demandent au moins le double. 92 000 euros de dettes effacées pour quiconque s'engage dans l'armée russe. C'est le texte signé aujourd'hui par Vladimir Poutine après plus de 1 000 jours de guerre. Le Kremlin veut inciter les volontaires à venir renforcer ses troupes. L'armée de Kiev, de son côté, campe sur ses positions. Elle a réaffirmé hier son intention de rester dans la région de Koursk aussi longtemps, je cite, que cela aura un intérêt. Koursk, c'est cette province russe occupée depuis 3 mois par les forces ukrainiennes. Mais en milieu de semaine, une petite ville de la région Marino a été visée par 12 missiles. La Russie n'a pas communiqué sur cette attaque. L'endroit n'est pas accessible à la presse. Mais notre reporter Anissa El-Jabri a pu se rapprocher. Elle est à Rilsk, à une vingtaine de kilomètres de la cible.
À une vingtaine de kilomètres de la frontière, à la même distance de Marino, le chef-lieu du district, Rilsk, et son chef, Andrei Viktorovitch Belousov, sans aucune surprise évidemment, qui s'affiche parfaitement serein.
Franchement, nous ne pensons même pas à ça. De toute façon, avant ces missiles, nous étions déjà constamment sous des tirs croisés. La frontière n'est pas si loin, à 30 kilomètres, et notre président a répondu comme il le fallait. Nous attendons maintenant de voir si l'Occident ou l'Ukraine elle-même vont réagir. En attendant, ici, nous n'avons remarqué aucun changement. Personne n'a pris ses valises pour partir.
L'administration ne conseille ni de quitter la ville, ni d'y rester. À chacun, dit-elle, de prendre ses responsabilités. La moitié des habitants vivraient encore sur place, mais difficile de trouver quelqu'un de forcément rassuré. Après le discours surprise du chef de l'État et le lancement du missile balistique à moyenne portée sur l'Ukraine.
Je ne vais pas faire de commentaires à ce sujet, mais c'est effrayant. C'est effrayant parce que nous ne savons pas ce qui va se passer après tout cela, quelle réaction il y aura de l'autre côté. Je n'avais pas imaginé que ce conflit durerait aussi longtemps et nous ne savons même plus ce qui peut se passer demain, après-demain, dans un mois.
Je ne peux pas tellement répondre à vos questions, c'est difficile car j'ai des sentiments très mélangés. Vous n'êtes pas d'ici. Je ne sais pas très bien comment vous expliquer. Mais regardez autour de vous, regardez les gens, regardez qui est parti, regardez qui est arrivé.
En suivant son regard, on aperçoit à ce moment-là un attroupement d'uniformes particulièrement important. Soldats, policiers, volontaires, ils sont à chaque coin de rue. La ville s'est teinte d'uniformes noirs et surtout de beaucoup de kakis. Et les civils, effrayés d'avoir la parole de trop, se murent dans leur silence. Anicel Jabri, Rilsk, RFI.
Et parmi les alliés de Kiev dans cette guerre, on trouve la Lituanie. C'était aujourd'hui la journée des forces armées dans le plus petit des États baltes. À cette occasion, le ministère ukrainien de la Défense s'est rendu à Vilnius pour y rencontrer des responsables. Les deux pays en ont profité pour signer un accord de développement conjoint de leurs capacités militaires. Explication sur place avec Marielle Vituro.
Avant les discours et la parade militaire, l'heure était aux choses sérieuses. Dans le bureau du président, du ministre de la Défense et du président du Parlement, le ministre ukrainien de la Défense a parlé soutien. En près de 3 ans de guerre, l'aide des Lituaniens est indéfectible, mais elle va encore augmenter. Laurynas Kasčiūnas, ministre de la Défense, détaille l'accord signé aujourd'hui.
Notre premier investissement de 10 millions d'euros est destiné à la production de drones fusées longue portée Palyanit. Ça, puis ensuite, en relocalisant l'industrie militaire ukrainienne en Europe, nous pourrons assurer une production pour l'Ukraine et pour nous.
Un investissement dans les capacités militaires de l'Ukraine nécessaire pour son ministre Roustem Oumerov.
La situation sur le champ de bataille continue d'être perpétuellement mouvante. Et nous avons vu que la Russie a envenimé la situation à 2 reprises rien que cette année. La dernière fois avec le tir sur Dnipro.
La Lituanie, comme la Lettonie et l'Estonie, ont décidé de consacrer 0,25% de leur produit intérieur brut à l'aide militaire pour l'Ukraine, une aide qui apparaît ici vitale au vu des récentes tensions. Marielle Vituro, Vilnius, RFI.
Une déferlante violette dans toutes les villes de France. Des milliers de personnes se sont réunies aujourd'hui pour protester contre les violences sexistes et sexuelles. 100 000 manifestants à Paris, 80 000 à Marseille selon la CGT. Preuve, souligne le syndicat, que la société française prend conscience des réalités du patriarcat et de son poids dans tous les milieux, même ceux que l'on pourrait espérer plus alertes sur ces questions de violence. Exemple ici avec l'hôpital, un rapport de l'Ordre national des médecins estime qu'une médecin sur 2 subit ces violences pendant ses études ou son exercice. Ilona Denis est présidente de la Fédération nationale des étudiants infirmiers.
On reçoit des appels d'étudiants en situation de détresse face à des situations de violence sexiste et sexuelle. Certaines personnes osent prendre la parole, là où d'autres personnes n'osent pas, ne se sentent pas de dénoncer, ne se sentent pas de porter plainte, ne se sentent pas de dire que c'est pas normal. Et ça, c'est extrêmement problématique parce que ça veut dire que parfois, les personnes qui font ça ne sont pas réprimandées de leurs actions parce que les étudiants préfèrent ne pas se mettre en difficulté, préfèrent ne pas avoir de représailles et souvent ne disent rien par peur en réalité. Je pense que la dimension psychologique associée à ces événements-là fait que malgré tout, ça restera compliqué pour certaines personnes d'en parler et donc de pouvoir demander des actions en conséquence malheureusement. Mais en tout cas, nous, on tient à accompagner et toute forme de travaux qui sont menés sur ces thématiques-là, on est très enclin à y participer pour trouver des solutions pour les étudiants.
Ilona Denis au micro de Baptiste Coulon. L'actualité en France, c'est aussi l'annonce de la prochaine panthéonisation de Marc Bloch, historien résistant lors de la Seconde Guerre mondiale. Il a été torturé puis assassiné par les nazis le 16 juin 1944. Le président Emmanuel Macron a annoncé son entrée au Panthéon ce midi à l'occasion des 80 ans de la libération de Strasbourg. C'est la fin de ce journal que vous pouvez retrouver en replay sur RFI.fr, sur l'application RFI Pure Radio. On se retrouve dans une petite heure pour un point sur l'actualité française. Ce sera 24 heures en France. En attendant, il est 22h10 ici à Paris.